Vous écoutez RTL.
Elle aussi, elle avait la foi. Elle va surgir comme une lionne en 1300, belle, active, amoureuse, le regard fier et clair et bretonne. Non, Thomas, je ne vous parle pas de votre partenaire habituel, Sidonie
Bonnet. Je croyais que c'était Sidonie en portrait.
Même si tous ces termes pourraient s'appliquer à elle.
Bisous Sidonie, je
vous écoute. Je parle de Jeanne de Belleville, la première femme pirate. Et on en parle tout de suite avec la romancière Laure Buisson. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, première caractéristique de Jeanne, elle est bretonne. C'est important. Pourquoi c'est important?
C'est important parce que le royaume de France au XIVe siècle n'était pas comme aujourd'hui, bien entendu, et puis c'était pas très grand. Et tout autour, il y avait des grands vassaux qui étaient les grandes régions comme la Bourgogne, comme la Flandre et comme la Bretagne. C'était des petits états dans l'état qui étaient très jaloux de leur indépendance. Mmh. Donc ça, c'est très important.
Alors, c'est la première femme pirate en France. Hein. C'est pour ça que qu'on a eu envie de raconter son histoire, de partager son destin. C'est une jeune fille bien née, elle est riche, on peut dire ça?
Alors oui, elle est même très riche, parce qu'elle est la fille du seigneur de Belleville, qui avait géographiquement à l'époque, toutes ses propriétés étaient à la lisière de la Bretagne et du Poitou. Si vous voulez, c'est comme si c'était la moitié de la Loire-Atlantique, la moitié du Maine-et-Loire et la moitié de la Vendée.
Joli petit territoire.
Voilà, c'est ça. En gros, ça allait de Nantes à l'Île-Dieu, quoi.
Alors, on retrouve Jeanne de Belleville dans quelques instants dans votre curiosité. Et vous allez voir, elle emmenait ses enfants pour des sorties assez étranges. Et de nos jours, on appellerait Flavie Flamand et les services sociaux.
RTL.
Connaissez-vous la tragique histoire de Jeanne de Belleville?
La curiosité est un vilain défaut.
Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on trouve dans les manuels scolaires.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Cœur de pirate, c'est son émission aujourd'hui.
Une femme pirate dans la curiosité. Il est 14h37 sur RTL. Vous le savez, dans cette émission, on aime l'histoire, la grande histoire, et on aime vous surprendre. Et on est persuadé avec Anaïs que vous n'avez jamais entendu parler de ce personnage, Jeanne de Belleville, la première femme pirate en France. En tout cas, nous, dans l'équipe de la curiosité, on a vraiment découvert cette histoire avec votre roman, Laure Buisson. Bravo et merci d'être là, parce que c'est un gros travail hein, de documentation et de recherche d'historienne pour arriver à dénicher de quoi raconter l'histoire de Jeanne de Belleville. On viendra à cette période pirate dans un court instant, mais d'abord il faut poser le contexte. À quel âge elle se marie une première fois et avec qui?
Alors, ça va vous choquer, hein, ça va tous vous choquer, mais elle se marie à 14 ans.
Ah oui. On est au 14e siècle.
Mais voilà, on est au 14e siècle, donc il ne faut pas juger hein, nos ancêtres et nos aïeux, puisque ça se faisait comme ça à l'époque. Et elle était très très contente de se marier à 14 ans, puisqu'elle a épousé donc, le seigneur de Châteaubriant, qui était lui aussi un seigneur très très puissant, plus âgé qu'elle. Donc le mariage va durer quelques années, puis lui va mourir. Alors j'avoue qu'on ne sait pas de quoi il est mort, s'il est mort de bataille, s'il est mort de maladie ou... Et donc là, elle va se retrouver toute seule d'abord. Ouais. Et puis, avant de se remarier, le frère du duc de Bretagne lui avait ce qu'on appelle fait des épousailles pé verba. C'est-à-dire qu'il lui avait promis de l'épouser.
Un peu comme vous avec moi, Thomas.
D'accord. Promesse orale.
C'était une sorte de fiançailles, voilà, orale. Et puis, le duc de Bretagne a trouvé une jeune femme un peu plus intéressante à épouser, qui était la nièce du roi de France. Mmh. Donc, Jeanne de Belleville était beaucoup moins intéressante.
Mais elle était quand même très riche, vous nous avez dit tout à l'heure. Sa richesse, elle l'a tirée d'où, d'ailleurs?
Elle l'a tirée du sel, en fait, puisque toute la région de Noirmoutier, de Beauvoir-sur-Mer, tout ça, c'était que des marais salants. Et donc les Bellevilles avaient carrément la main mise en fait hein, sur la production de sel.
Donc elle doit épouser le frère du roi de France.
Non, en fait, le frère du duc de Bretagne.
Le frère du duc de Bretagne, pardon.
Et en qui fait... lui se dédie en fait pour un parti plus intéressant puisque c'est la famille du roi de France, enfin l'entourage proche tout au moins.
Est-ce qu'elle va finir par trouver l'amour, faire un mariage d'amour cette Jeanne de Belleville?
Oui, avec Olivier de Clisson.
Qui est?
Qui est en fait un grand seigneur breton, cette fois-ci, qui lui est très très riche aussi, qui a énormément de terres, et surtout qui a... Elle avait le sel, et lui, il a les mines de fer.
Elle va faire un procès à son premier, enfin à celui qui avait voulu l'épouser.
Voilà, au duc de Bretagne, parce que il n'a pas tenu sa promesse, hein, il l'a pas épousé.
D'accord.
Donc
elle mais ce fait qui est plus procès. Étonnant, c'est qu'elle fait un procès aussi à son mari.
Elle fait un procès à son mari parce que elle est arrivée avec une dot, donc avec toutes ses terres. Puis son mari lui devait en contrepartie ce qu'on appelle une douaire, c'est-à-dire une petite rente qu'il lui versait mensuellement. Mais au bout de 3 ans, il avait toujours pas versé la rente, donc j'imagine qu'elle avait dû lui demander plusieurs fois. Donc ce qu'elle est allée faire, c'est qu'elle lui a fait un procès, quoi.
Mais pourtant, ils étaient très amoureux.
Ah oui, ils étaient très amoureux. Oui, mais c'était Olivier de Clisson était un homme très arrogant et qui, je pense, avait qu'une seule autorité au-dessus de lui, c'était le roi. Donc, pour arriver à ses fins, elle est allée voir le roi, quoi.
Alors, il faut passer, brûler quelques étapes, pardon, mais cet Olivier de Clisson, vous parlez de son rapport avec le roi ou les rois, il va choisir plutôt le roi d'Angleterre, donc être... Je brûle les étapes volontairement,
oui.
Je vois que vous levez les yeux au ciel, mais bon. Et donc, il va être condamné, arrêté, condamné, décapité par le roi de France. Et c'est là que je vais vite pour pouvoir raconter l'anecdote dont parlait Anaïs tout à l'heure, juste avant la pub. Que fait Jeanne de Belleville avec ses enfants quand son mari est décapité?
En fait, il faut savoir qu'il a été décapité, son corps a été pendu au gibet de Montfaucon à Paris et sa tête a été flanquée sur une pique à l'entrée de Nantes. Donc Jeanne de Belleville, elle apprend ça, elle est furieuse, elle prend ses deux enfants, les deux fils qu'elle a eus avec Olivier de Clisson, donc Guillaume et Olivier, et elle les emmène devant la tête de leur père et elle leur dit « Voilà, ce que le roi de France a fait à votre père, donc maintenant, il faut le venger ».
Et elle se lance avec ses fils dans une croisade, en quelque sorte, enfin en tout cas dans une vengeance.
Exactement.
Et vous allez découvrir pourquoi on l'appelle la lionne de Bretagne, toujours Jeanne de Belleville, pas Sidonie Bonnec.
Non, parce que celle-là, elle est sanglante, Jeanne de Belleville.
Vous verrez que si vous lui cassez les pieds, elle vous les coupe, les pieds, hein, bien sûr.
1337, les royaumes de France et d'Angleterre entreprennent une guerre qui va durer 100 ans. RTL.
Je suis bretonne. Sur la mer, rien ne m'effraie. Je connais les rochers, les marées, les vents et les brouillards.
La curiosité est un vilain défaut.
Va, Jeanne, et fais souffrir la France de ta vengeance.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Arrêt à l'abordage, papa. Souquez les artémuses.
Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquez les artémuses.
Ah, c'est ça, je me disais aussi.
Ça, c'est un extrait de l'Astérix Mission Cléopâtre. On vous raconte l'histoire de Jeanne de Belleville, cette bretonne aristocrate, la première femme pirate de France. Et c'est grâce à Laure Buisson qui publie dans une bio romancée Pour ce qui me plaît aux éditions Grasset. Alors, je fais le résumé rapide des épisodes précédents. Son mari, Olivier de Clisson, a été décapité par le roi de France pour trahison, sa tête plantée au bout d'une pique. Jeanne décide donc de se venger avec ses deux fils à qui elle a montré ce spectacle, la tête de leur papa. Elle sème la terreur d'abord sur le sol français, et puis ensuite le roi de France lui confisque ses terres, et là on en arrive à cette période pirate. Comment devient-elle pirate? Faut se payer un bateau déjà.
Alors elle vend ce qui lui reste en fait, hein, c'est-à-dire ses bijoux et ses robes, et elle achète un bateau, sans doute un bateau de commerce, hein, et avec les fidèles qui lui restent, eh bien, elle arme le bateau. Et elle sillonne toute la côte bretonne et puis les grands fleuves, enfin les grandes rivières bretonnes, pardon. Et elle aborde en fait tout ce qui est français.
Donc c'est-à-dire dès qu'elle voit un pavillon,
une fleur de lys.
Alors il y avait tous les bateaux n'avaient pas de pavillon à l'époque parce que c'était pas obligatoire. Mais elle aborde tout ce qui est bateau français en fait. Donc que ça soit des navires de commerce. Alors elle touche le gros lot effectivement quand c'est des bateaux militaires, hein, parce que comme ça elle venge encore plus son mari en s'attaquant directement au roi de France. Mais voilà, elle aborde tous les bateaux.
Mais elle a réussi à lever, à emmener des hommes derrière elle parce que c'était une femme, c'était évident.
Oui, c'était les fidèles en fait au Clisson qui l'ont suivie. Des régisseurs, des intendants, aussi des écuyers et puis sans doute des hommes d'armes qu'ils avaient dans le château avec eux.
Mais elle savait naviguer, Jeanne de Belleville, pirate.
Non, ça c'est sûr, mais elle était avec des gens qui devaient savoir naviguer.
Et donc elle aborde tous les bateaux français, commerce ou militaire, et c'est violent.
Ah, c'est très très violent, oui, parce qu'elle ne laisse jamais aucun témoin. Hein, donc, elle décapite elle-même à tour de bras.
Elle a une petite particularité, une spécialité locale.
C'est ce que j'allais dire. Elle coupe les pieds et les mains, en fait, des gens qu'elle attaque, des survivants. Et après, elle les balance à l'eau. Et pour éviter qu'ils remontent à bord, avant, elle leur a tranché les pieds et les mains, quoi.
Ah oui, c'est effectivement violent. C'est, je comprends mieux le voilà, surnom de
Lionne Sanglante.
De Lionne Sanglante, ses fils dont on parlait à l'instant, ils prennent part au combat.
Bien sûr, oui, les deux.
Ils sont tout jeunes.
Alors, Olivier, à l'époque, il a 7-8 ans. Et le grand, Guillaume, il a 9-10 ans à peu près.
Et donc, eux aussi, coupent à tour de bras et...
Oui, enfin, je pense qu'elle a dû leur apprendre, oui.
D'accord. Alors, combien de temps ça dure, cette petite histoire ?
Ça dure pas très longtemps, en fait. Hein, ça dure 9 mois.
Parce que là, le roi de France va quand même s'énerver un petit peu.
Voilà, donc il est un peu furieux. Donc, il lance beaucoup de troupes à ses trousses. Et bah, il finit par la rattraper.
Et qu'est-ce qui va se passer là ?
Alors là, elle arrive à se sauver dans une chaloupe avec ses deux enfants.
Elle abandonne son bateau ?
Elle abandonne le bateau et les hommes qui sont dessus. Elle réussit à partir et elle dérive pendant 7 jours sur la mer. Et là, elle perd un de ses fils, l'aîné, Guillaume, qui meurt de froid, de faim, de soif. Puis, elle est miraculeusement, enfin non, parce que je pense que beaucoup de gens étaient à sa recherche, elle est récupérée par des marins bretons qui, de là, en fait, la sauvent. Et la font aller en Angleterre, la font partir en Angleterre, où elle est accueillie à bras ouverts par le roi d'Angleterre, Édouard III.
Eh bien, on va vous raconter la suite de ce destin extraordinaire, celui de Jeanne de Belleville, première femme pirate en France. Restez avec nous.
Jeanne de Belleville, dans tout ça, pour en revenir au personnage, est née vers 1300.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça alors ? J'ai jamais vu ça !
Elle est la fille de Maurice IV de Montaigu et de Laetitia de Parthenay.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Ça plaît aux petits et aux grands.
Sur RTL. Lira.
De retour dans votre curiosité, on est avec Laure Buisson qui a publié le portrait d'une femme incroyable, Jeanne de Belleville, la première femme pirate. Votre livre s'appelle... Votre excellent livre, devrais-je dire, s'appelle « Pour ce qu'il me plaît ». Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ?
C'est la devise des Clissons. Et je trouvais que ça lui allait tellement bien, parce qu'en fait, ça veut dire « à ma guise ». Donc je trouvais que c'était...
Je fais ce que je veux.
Je fais ce que je veux, et c'est ce qu'elle fait, parce qu'elle fait vraiment ce qu'elle veut.
Et dans ce 14e siècle naissant, puisqu'elle est née en 1300 avec le siècle, c'est rare des femmes comme celle-là, j'imagine.
Alors, pas tant que ça, fait. Bon, hein. Non, puisqu'il y en a une autre aussi qui est terrible et que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Duchesse de Montfort, qui était d'ailleurs, a priori, une amie de Jeanne de Belleville.
Oui, elle s'y connaissait.
Qu'on avait surnommée Jeanne la Flamme. Puis il y a eu Aliénor quand même quelques siècles avant.
Il y a eu quelques fortes femmes. Donc on a bien compris, la piraterie ça dure 9 mois dans la vie de Jeanne de Belleville. Elle finit par être pourchassée par le roi de France. Elle fuit en Angleterre. Où vit-elle ? Est-ce qu'elle fait partie de la cour du roi d'Angleterre ?
Complètement. Oui. Le roi d'Angleterre l'appelle ma chère cousine Clisson. Dans les archives que j'ai retrouvées anglaises. Elle est notée dans les réunions en fait stratégiques sur la guerre de Cent Ans qui concerne la Bretagne. Elle est notée comme notre chère cousine, la dame de Clisson.
Oui, parce que donc on est en pleine guerre de Cent Ans.
Complètement.
On s'écharpe anglais, français pour savoir qui va récupérer le trône de France. Et elle, là, elle a une idée en tête après avoir vengé son mari et coupé des pieds à tour de bras. Elle veut récupérer
ses terres. C'est la seule chose qui compte. Donc en fait, elle va tout faire. Hein, et le roi anglais va lui promettre ses terres. Il va sans arrêt lui dire oui, en gros, je vais te les donner, tes terres, je vais te les redonner. Puis en fait, il n'y a jamais les actes écrits qui suivent. Hein. Donc elle trouve un très bon moyen, c'est-à-dire qu'elle épouse un anglais. Et là, le roi d'Angleterre se dit, je peux avoir confiance en cette Jeanne de Belleville, puisqu'elle fait l'effort d'épouser un anglais.
Oui, parce qu'il était un peu inquiet. Les Bretons, c'était un peu, ils changeaient un peu de.
Voilà, Sidonie. Hein, mais...
Voilà, ils se méfiaient de
l'Europe. Moi, je pratique la Bretagne avec Sidonie depuis 4 saisons. Je me méfie des Bretons. Non, c'est une blague. Évidemment, chers auditeurs de Bretagne, c'est une vanne.
Oui, ils se méfiaient beaucoup des Bretons parce que beaucoup étaient partis rejoindre l'Angleterre et en fait, beaucoup étaient repartis du côté français.
Donc le fait qu'elle épouse un seigneur anglais,
voilà. Du coup, ça donne un gage à Édouard III qui lui dit elle peut repartir sur ses terres en Bretagne.
Va-t-elle donc récupérer ses terres pour elle ou pour son fils ?
Pour son fils. C'est son fils. En fait, c'est pour son fils pour que le nom de Clisson puisse à nouveau rayonner sur la Bretagne. C'est ça qui l'intéresse.
Et lui, il avait appris les leçons de maman. C'est ça ?
Oui, et puis surtout, il a été à l'école de l'armée anglaise, qui était, je suis désolée pour les auditeurs français, mais c'était quand même la meilleure armée à cette époque-là. Mmh. Et il devient un très très grand militaire. Pour vous donner une anecdote, c'est que sur les batailles, on le surnommait le boucher.
Ça donne envie.
D'accord. Non, voilà. Et il s'est même, je crois, battu malgré un œil.
Ah oui, à la bataille d'Auray, oui. Oui. Il a, à un moment, il a reçu un coup d'épée dans l'œil, donc il était éborgné. Et il a continué à se battre jusqu'à la fin de la bataille avec un œil en moins. Et son second surnom, c'était l'éborgné d'Auray.
Ben voilà, il méritait finalement de suivre les traces de sa maman Jeanne de Belleville, qu'on n'a pas. On aurait pu commencer par là, même si j'imagine c'est difficile. Elle vivait au début du XIVe siècle. Elle ressemblait à quoi, Jeanne de Belleville? C'était une belle femme.
Alors, à l'époque, on disait que c'était l'une des plus belles femmes de son époque. Mm-hmm. Mais il existe aucune gravure, aucun dessin, aucune description physique d'elle. Donc voilà, je pense qu'elle devait être blonde, parce que à l'époque, être blonde, c'était être très 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 belle.
Et on ne sait pas où elle est morte non plus.
Non, on ne sait pas où elle est morte. Non, elle est morte sur ses terres, ça c'est sûr. Il y a une rumeur qui court comme quoi ça serait dans le château de Lisle-Dieu. Mais on ne sait pas.
Merci Laure Buisson beaucoup d'être passée nous raconter ce destin vraiment hors du commun, celui de Jeanne de Belleville, première femme pirate, mais pas uniquement du tout. Vous le découvrirez en lisant ce remarquable roman, pour ce qu'il me plaît, aux éditions Grasset.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.